J'aimerais parler sur l'irritation de Jonas. Dans Jonas, chapitre 4, verset 1, il est écrit « Cela des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi, donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Et là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Amen. » Que faire quand Dieu n'agit pas comme nous l'avions espéré ? Voilà la situation de Jonas. Il avait espéré que Dieu frappe la ville de Ninive et qu'il détruise cette ville. Mais Dieu a agi autrement. Et parfois, Dieu agit autrement que ce que nous lui demandons de faire. Alors, nous avons peut-être des idées, nous avons des projets. Nous savons comment Dieu devrait régler les problèmes, nous le savons, nous voyons déjà les choses, comment il devrait faire. Mais finalement, Dieu est en dehors de notre volonté, il fait ce qu'il veut. La Bible dit au psaume 115:3, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Dieu n'est pas là à notre disposition pour faire notre volonté, pour faire à la manière dont on a conçu, un petit peu comme Jonas, il avait des idées préconçues. Mais notre but à nous, chrétiens, c'est de chercher sa volonté et de la mettre en œuvre. C'est différent. Et Jonas n'a pas compris cela, c'est pourquoi il s'est irrité contre Dieu. Comment réagissez-vous quand Dieu n'agit pas comme vous voulez ? Ben voilà, Jonas, lui, il s'est irrité. Alors, quelles sont les raisons de l'irritation ? Ben, la première raison, on peut la trouver facilement ici dans ce texte, c'est que Dieu n'agit pas comme on veut. Jonas avait espéré un châtiment à cause des péchés du peuple. C'était un peuple méchant, le peuple de Ninive. C'était un peuple qui avait fait des excursions en Israël, qui avait tué des innocents, des femmes, des enfants. Donc, ils étaient violents, ils étaient méchants, loin de Dieu. Mais en même temps, Jonas reçoit cette mission d'aller leur prêcher la repentance. Et il ne s'attendait pas à ce que toute la ville, en fait, au chapitre 3, toute la ville se repent, ils déchirent leurs vêtements, ils demandent pardon à Dieu. Il y a une repentance collective, un réveil spirituel. Ils ne s'y attendaient pas. Ils savaient que Dieu est compatissant, qu'il est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Mais ce que je remarque dans ce texte, c'est que si Dieu a de la compassion et de l'amour pour celui qui se repent, Jonas n'éprouve pas cet amour, il n'éprouve pas cette compassion. Il n'a aucune compassion pour les Ninivites. Et Dieu voulait changer sa mentalité. Comme Dieu, aujourd'hui encore, veut changer notre mentalité pour que nous soyons conformes à sa pensée, pour que nous ne conformions pas à la pensée du monde, mais que nous soyons conformés, que nous nous conformions à la pensée de Dieu. Il y a dans nos pensées des choses mauvaises, et cette transformation, c'est l'œuvre de Dieu qui va nous travailler. Un jour, Pierre en a fait l'expérience. Vous savez que Pierre était d'un milieu juif. Il est né dans un milieu juif. Il a grandi comme un juif. Et puis, il a été appelé par Jésus. Il a quitté son travail de pêcheur. Mais pour lui, même quand il a donné son cœur à Jésus, il restait juif dans sa vie, mais jusqu'au bout des ongles. Il avait encore une forteresse dans son esprit. Et c'est pourquoi Dieu va lui révéler dans une vision, alors qu'il priait, il y avait déjà eu la Pentecôte, il y avait déjà eu Pierre qui avait été transformé par le Saint-Esprit. Il avait prêché à plusieurs milliers de personnes et 3000 personnes s'étaient converties. Donc on voit qu'il était déjà dans la vie de l'Esprit. Mais il y avait des forteresses. Et il ne pensait pas que l'Évangile était pour les païens. Un petit peu comme Jonas ne pensait pas que Dieu voulait sauver ses Ninivites. Eh bien, Pierre ne pensait pas que l'Évangile, la grâce qu'il avait reçue, c'était pour le monde entier. Il croyait que c'était vraiment pour son peuple. Et c'était une forteresse. Et il a été remué par la vision d'une nappe avec des animaux, mais des animaux impurs selon la loi. Il y avait toutes sortes d'animaux dont l'Ancien Testament dit « c'est interdit d'en manger ». Donc l'Ancien Testament, c'est Dieu qui l'a inspiré. Donc Pierre disait, quand la voix dit « tue et mange », Pierre disait « non, Seigneur, je ne ferai jamais une chose pareille ». Jusqu'à 3 fois, la voix s'est répétée, la vision était là, et il a refusé à chaque fois. Mais déjà, Dieu était en train de préparer que l'ancienne alliance, c'était dans un certain cadre, il y avait une loi qui correspondait à l'ancienne alliance, mais que maintenant, Pierre était dans la grâce, la nouvelle alliance. Est-ce que vous savez quand a commencé la nouvelle alliance? À la mort de Jésus. La nouvelle alliance, elle a commencé avec la mort de Jésus, par son sang. Parce qu'une alliance, ça se concrétise par le sang. Donc tout le ministère de Jésus jusqu'à la croix, c'était encore sous l'ancienne alliance qui se clôture avec la croix, et la croix ouvre la nouvelle alliance. Eh bien, Pierre était encore dans sa mentalité dans l'ancienne alliance. Il avait fait le pas de la foi, il avait accepté Christ, mais dans son esprit, il y avait des choses de l'ancienne alliance où Jésus a dit « moi je suis venu non pas pour l'abolir, mais pour accomplir la loi ». Et maintenant, c'est une nouvelle alliance, elle est faite, elle est là, depuis la croix. Eh bien, la croix, c'est quoi? C'est que Dieu veut faire grâce à tous. C'est la nouvelle alliance. Et vous voyez que Jonas, quand déjà, là, il y a une prophétiquement, dans le chapitre 4, la miséricorde de Dieu, sa compassion, sa volonté de sauver le monde, parce que les Ninivites, c'est une image, en fait, du monde, des non-croyants, de ceux qui sont loin de Dieu, et qu'il y a dans le cœur de Dieu cet amour, ce désir de nous révéler qui il est et son amour. Et il y a un texte qui dit que la loi est venue par Moïse, ça c'était l'ancienne alliance, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance. Donc dans la nouvelle alliance, on est déjà là, dans cette perspective que Dieu est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il a prévu un plan de salut. C'est la croix. Et voyez, Pierre a été changé parce que lorsqu'il va aller chez un païen qui s'appelait Corneille, il lui dit, Dieu m'a appris. Dieu m'a appris. Parce qu'il dit, vous savez que c'est interdit pour un juif d'entrer chez des païens, mais Dieu m'a appris, il parle de la vision avec la nappe, Dieu m'a appris à ne pas considérer impur ce que Dieu a déclaré pur. Il y a eu un changement. Et Pierre est entré dans la grâce. Et il a prêché l'évangile à Corneille qui s'est converti, et il a vu que la grâce était pour les païens. Voyez, ce que vit Jonas, en fait, c'est comme une préfiguration de ce qui attend le monde. Mais Jonas ne le sait pas, et il est mécontent. Il est un petit peu comme Pierre, si vous voulez, avant la vision de la nappe. Il est un petit peu comme Pierre qui ne pensait pas que l'évangile était pour tous et qui voulait le garder pour son peuple. Alors, pareil pour nous. On voit que Jonas a mal réagi, puis c'est facile quand on lit la Bible, c'est facile de juger et de dire « Ah, il a mal réagi celui-là », parce qu'on se met en regard extérieur. Mais nous, comment réagissons-nous quand Dieu ne fait pas ce que nous voulons? Si vous avez postulé pour un travail, vous avez prié et la porte s'est fermée. Et vous aviez pensé que c'était le plan de Dieu. Si vous avez prié pour une guérison et vous êtes toujours malade. Si vous avez fait un magnifique projet pour acheter une maison et puis au dernier moment la banque ne vous accorde pas le prêt. Et vous avez prié et vous croyez que c'était la volonté de Dieu. Et là, comment vous réagissez? Parce que là, on est éprouvé de toutes sortes de manières. Et là, ça peut être la colère, ça peut être les plaintes, ça peut être les gémissements, ça peut être... Même Jonas, à un moment donné, il dit, ben, il demande la mort à Dieu, il en a tellement assez de la vie, il veut partir, il n'en peut plus. Qu'allons-nous faire quand Dieu ne fait pas ce que nous voulons? Parce que Dieu regarde au cœur. Et il nous faut arriver, frères et sœurs, à comprendre que Dieu est au contrôle et que nous pouvons lui rendre grâce, même si les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu, parce que lui, il a prévu autre chose. Nous ne le saisissons pas encore, mais nous pouvons lui faire confiance parce qu'il a un plan. Et il va se passer quelque chose. Si la porte s'est fermée pour le travail, eh bien il y a une autre porte qui va s'ouvrir. On ne la connaît pas aujourd'hui, mais nous pouvons lui rendre grâce en disant, Seigneur, je te fais confiance parce que toi, tu tiens ma vie entre tes mains. C'est cette attitude-là, en fait, que Dieu veut voir dans notre cœur. Les choses ne se passent pas comme nous voulons, mais nous pouvons garder notre confiance en Dieu. Et là, c'est pas facile ce chemin, parce qu'on est souvent dans le regret, dans la plainte et l'incompréhension, et pourquoi Seigneur, et on demande des comptes à Dieu, etc., etc. Et ce n'est pas la bonne voie. Ça, c'est la première raison de s'irriter. On se met en colère parce que Dieu, finalement, n'agit pas comme nous voulons. Deuxième raison de s'irriter, c'est la jalousie, quand on est jaloux. On a l'exemple du roi Saül qui était toujours jaloux de David. Mais Saül, il avait ses qualités. Au lieu de bénir Dieu pour le succès de David, il commençait à être jaloux. Voyez, il n'a pas compris. Même son fils Jonathan, il commençait à soutenir David. Il a tout fait pour le sauver. Alors 1 Samuel 20, 30 dit ceci, « Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, « Fils pervers et rebelle, je sais que tu as pour ami le fils d'Isaïe, c'est-à-dire David, à ta honte et à la honte de ta mère. » Il est tellement en colère à cause du succès de David qu'il s'en prend à Jonathan, parce que Jonathan soutient David, il s'en prend même à son fils, il se met en colère contre David, il se met en colère contre son fils, et quand vous êtes jaloux, vous allez vous irriter contre tout le monde, même contre votre famille. Si vous êtes jaloux des autres, c'est que vous n'avez pas encore compris comment Dieu fonctionne. Parce que Dieu donne des dons à l'un et il donne des dons à l'autre, mais il fait ce qu'il veut. Et si Dieu a donné à David, qu'est-ce qu'il est, Saül, pour contester ce que Dieu a donné à David? Qui sommes-nous pour contester si Dieu a décidé d'élever David? C'est plutôt à nous de reconnaître ce que Dieu fait et rentrer dans son mouvement. Parce que chacun a sa valeur. On ne dira pas que les uns valent plus que les autres. Mais tous ne font pas la même chose et tous n'ont pas reçu les mêmes dons. Et Saül ne l'a pas compris. Saül, il a été jaloux et il n'a pas soutenu David alors que David était soutenu par Dieu. Saül savait faire des choses. Saül avait ses qualités. Il avait d'ailleurs été choisi par Dieu. Ce n'était pas par hasard. Pourquoi il avait été choisi par Dieu? Parce qu'il était humble. Parce qu'il aimait Dieu. Parce qu'il était sérieux au début de sa vie. Au début de... quand Dieu l'a choisi. Mais petit à petit, l'orgueil, le pouvoir ont changé sa vision. Le problème de Saül, c'est qu'il regardait ses manques à lui et il enviait chez l'autre ce qu'il n'avait pas. Or, quand vous regardez ce que vous n'avez pas, vous avez toujours l'impression que les autres ont plus que vous. Mais vous regardez ce que vous n'avez pas. Mais vous, vous avez des choses que les autres n'ont pas. Et ce qu'il nous faut faire, c'est regarder ce que nous avons, plutôt que d'être irrité parce que nous n'avons pas les choses que les autres ils ont. Et tout le monde n'a pas les mêmes choses. Et si vous êtes irrité parce que ben vous voyez les autres ils ont ceci, comme Saül voyait David, alors ils ont plus de succès, alors ils réussissent mieux, ils ont plus d'argent, ils ont plus de biens matériels, ils ont plus de réussite dans leur carrière, alors vous êtes jaloux, vous les enviez quelque part. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous réjouissez pas de ce que vous avez? Et finalement, Dieu nous a donné à chacun. Mais on n'a pas tous les mêmes choses. Et on peut se réjouir pour ce qu'on a et faire ce qu'on a pour Dieu. Mettre au service de Dieu le don qu'on a reçu. Mais on n'a pas reçu tous les mêmes dons. Donc, inutile d'être jaloux. Inutile d'être jaloux de David, ce n'est pas la peine. Il a reçu quelque chose qu'on n'a pas reçu. Il faut le bénir et rentrer dans les projets de Dieu pour chacun. Donc voilà une autre occasion pour lesquelles on va s'irriter, un peu comme Saül, c'est à cause de la jalousie. Une autre raison, c'est les paroles dures. Proverbes chapitre 15, verset 1. « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Donc les paroles dures vont augmenter l'irritation. Certains ont des paroles dures, ils répondent sèchement, durement, ils sèment la zizanie, la discorde. En fait, c'est le travail de l'ennemi, il veut diviser par les paroles. Et il fait cela au milieu des croyants. En fait, un croyant qui sème des paroles dures et qui irrite, il fait le travail de l'ennemi, parce que l'ennemi, c'est le semeur d'ivraie. Mais si des chrétiens font le travail du diable, le diable, ben, il se repose, il n'a rien à faire. Ce n'est pas notre travail de semer l'ivraie. Ce n'est pas notre travail de semer des paroles dures. Au contraire, nous, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à dire des bonnes paroles. Alors, on ne peut plus, peut-être autrefois, on disait tout ce qui nous passe par la tête, on pouvait critiquer, on pouvait juger, on passait notre temps à dire des paroles en l'air. Ça, c'était avant. Maintenant, il y a un changement quand on a rencontré Jésus, c'est Éphésiens 4, 29. Quand on a rencontré Christ, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous voyez, le changement est radical. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et là, ça ne va pas irriter, ça va apaiser la colère. Donc, soit on est dans le mode irritant, parce qu'on parle à tort et à travers, on juge, on est cassant, soit on accepte de suivre les commandements de Dieu, on change notre vocabulaire, on laisse l'esprit nous transformer et on parle selon la parole de Dieu, on supprime les paroles mauvaises, mais on cherche à édifier par nos paroles. Maintenant, une deuxième partie, ce sont les conséquences de l'irritation dans la... On a vu toutes les raisons pour lesquelles on peut s'irriter, mais il y a quand même des conséquences. La première conséquence, c'est que Jonas, lui, il va s'égarer dans sa prière. Jonas, chapitre 4, verset 3, il demande à Dieu, « Éternel, maintenant, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Voilà. Quand on est irrité, les conséquences, c'est qu'on prie des prières qui sont complètement à côté de la volonté de Dieu. Son irritation le pousse à demander des mauvaises choses. « Prends-moi, la mort, ça vaut mieux que la vie. » C'est tout l'inverse dans la Bible. Il demande la mort, il est en colère, et en fait, dans sa colère, ça le pousse à prier d'une manière négative. Jonas ne voit même plus les choses selon Dieu. C'est-à-dire, il ne raisonne plus selon la parole de Dieu, mais il raisonne selon le monde. Il est centré sur son problème. Mais si vous êtes centré sur votre problème et que vous êtes irrité, bien vous serez malheureux, vous tournerez en rond, vous ne voyez pas d'issue et vos prières, si vous écoutez vos prières quand vous êtes irrité, quand Dieu n'agit pas comme vous voulez, bien vous voyez bien que ces prières ne sont pas inspirées, elles sont le fruit d'un cœur éloigné de Dieu. Mais quand on veut faire la volonté de Dieu, au contraire, on dégage cette irritation, on soumet notre volonté à la volonté de Dieu, et c'est là que Dieu nous donne sa paix et sa joie. Une autre conséquence de son irritation, après ce temps d'égarement, et nous le remarquerons assez facilement quand nous sommes irrités, on n'a pas des paroles inspirées, on prie de travers, mais ensuite il refuse aux autres la grâce dont lui-même a été l'objet. Voilà, on est irrité, alors on devient dur. Il devrait se rappeler d'où il vient, parce que dans les chapitres 1 et 2, il a démontré sa désobéissance. Il a démontré qu'il était un prophète rebelle. Il s'est éloigné de la volonté de Dieu. Il a fait le chemin inverse au plan de Dieu pendant plusieurs semaines. Il s'est embarqué pour aller dans une ville à Tarsis très éloignée de Ninive. Et là, il y a eu la tempête, on l'a jeté par-dessus bord, il aurait dû mourir. Et Dieu lui a fait grâce en envoyant un grand poisson qu'il a avalé. Et 3 jours et 3 nuits, il est resté là dans le ventre du poisson et il s'est repenti. Et il devrait se rappeler quand même que lui a été l'objet de la grâce de Dieu. Et s'il a été l'objet de la grâce de Dieu, ben c'est aussi pour qu'il fasse grâce aux autres. Et c'est tout l'enseignement du Nouveau Testament. Parce que si vous ne voulez pas faire grâce aux autres, ben Dieu ne vous fera pas grâce. Jésus l'explique avec cette parabole qu'un roi qui voulait faire rendre des comptes à ses serviteurs, puis il y en a un qui devait 10 millions d'euros, l'équivalent de 10 millions d'euros, et il le supplie, « Seigneur, aie pitié de moi, je te paierai tout. » Puis finalement, le roi a pitié, lui fait grâce. Mais en sortant, ce serviteur n'a pas eu la même attitude envers un collègue qui lui devait 100 euros. Le collègue lui dit, « Aie pitié de moi, je te les rembourserai. » Non, non, tu me rends mon argent. 100 euros, c'était pas grand-chose. Et il n'a pas fait grâce. Et Jésus dit, mais celui, parce qu'il n'a pas fait grâce, il a été sanctionné, il a été jeté en prison. Alors qu'il venait d'être gracié par le roi, il a été jeté en prison à cause de son manque de cœur pour son collègue. Donc, on voit bien que ce que Jésus attend, et on le voit aussi dans la prière du Notre Père, si nous ne faisons pas grâce aux autres, Dieu ne nous fera pas grâce. On peut passer même à côté du plan de Dieu. Ça, c'est une autre conséquence de l'irritation. Quand on est vraiment irrité contre Dieu, on peut passer à côté des bénédictions. On le voit par exemple avec ce général syrien qui s'appelait Naaman. Il est dirigé par Dieu par une petite servante, une esclave du peuple d'Israël. Il avait la lèpre et il entend parler de ce Dieu d'Israël qui peut faire des miracles, des guérisons. Il est conduit à aller en Israël, il va voir le roi. Le roi dit « Je ne peux pas faire quoi que ce soit pour toi ». Il se retrouve donc devant Élisée, la maison d'Élisée, le prophète. Élisée ne sort même pas et il fait dire par son serviteur « Va te laver 7 fois dans l'eau du Jourdain ». Et là, le texte dit, dans 2 Rois chapitre 5, verset 11, « Naaman fut irrité. Et à cause de cette irritation, il est sur le point de manquer son miracle. Il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera la main sur place et il guérira le lépreux. » Il pense au fleuve de Syrie qui était meilleur que le Jourdain. Et il allait manquer son miracle. L'irritation le pousse à côté du plan de Dieu pour sa vie. Heureusement, les serviteurs étaient là, lui ont dit, mais si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, maintenant c'est facile, vas-y. Ils l'ont encouragé et grâce à ses serviteurs, il s'est ravisé et il a obéi et il a eu son miracle. Mais voyez, quelquefois l'irritation va nous faire manquer une bénédiction, une grâce, parce que nous allons prendre une décision à l'emporte-pièce, partir, être fâchés, et finalement, la bénédiction qui était accessible, elle était là pour Naaman, mais il s'en est fallu de peu qu'il ne l'ait pas, finalement, s'il était parti irrité. Une autre conséquence, c'est qu'on peut commettre des graves erreurs. Quand on est irrité, on peut faire des actes violents. Par exemple, Caïn et Abel étaient deux frères, tous deux ont apporté une offrande à Dieu, c'était bien, mais Dieu a approuvé l'offrande d'Abel, qui était d'un cœur pur, mais l'offrande de Caïn n'a pas été agréée par Dieu. Et Caïn a été jaloux. Genèse chapitre 4, verset 5. Caïn fut très irrité. On retrouve là la colère, l'incompréhension par rapport à Dieu qui bénit, qui approuve Abel, mais pas son offrande à Caïn. Dieu dit à Caïn, il y a encore une possibilité. En fait, c'est comme si Dieu lui tend la main et lui dit, le péché est à ta porte, parce qu'il voit bien la colère, l'irritation, mais il lui dit, il se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Il y a une possibilité quand même pour toi d'un nouveau départ. Mais Caïn n'a pas accepté cette parole. Il a été déçu du manque d'approbation de Dieu. Son irritation l'a poussé à tuer son frère. Et en fait, l'irritation vous poussera à commettre des choses graves, des choses regrettables, des choses mauvaises. D'abord, il l'a eu en pensée, il voulait se venger de son frère, et puis après, il est passé aux actes. La colère peut nous pousser à même faire des accidents. J'ai eu ce témoignage d'un homme, un mari qui s'était disputé avec sa femme, et il était tellement en colère. Dans son irritation, il a pris la voiture, il a fait le tour du pâté de maison à toute vitesse, et juste au moment où il arrivait devant un feu, il y avait des gens qui traversaient, une famille qui traversait le passage piéton, il aurait pu les écraser. Alors, pour éviter de les écraser, il a tourné le volant et paf, il a fracassé le feu. Il a donc cassé son moteur, sa voiture. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais voyez l'irritation. L'irritation, irrité, en colère, il est parti. Voilà, il aurait pu tuer, sans le vouloir, eh bien, il aurait pu y avoir des morts. Heureusement, il n'y a eu que la voiture qui a été cassée. Mais l'irritation nous pousse à faire des choses qu'on regrettera, nous pousse au mal. La colère aussi engendre des conflits. Chapitre 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un autre homme. Il y a des hommes qui excitent la colère. Vous mettez en colère, ils sont colériques. Au lieu d'apaiser un conflit, ils vont envenimer le conflit. Et ça, ce n'est pas propre aux chrétiens. Ça doit être quelque chose que nous rejetons. C'est-à-dire, quand il y a un conflit, quand les gens vont vous exciter à la colère, eh bien vous allez chercher la paix et vous allez chercher des solutions pour tourner cette page, pour trouver comment on peut avancer. Maintenant, je termine avec un dernier point, c'est que faire quand on se met en colère? Jonas, comment il a réagi quand il s'est mis en colère? En fait, il s'est entêté. Il s'est entêté, pourquoi? Parce que Dieu lui a donné une leçon avec le ricin. D'abord, il était là, assis, avec le soleil et la chaleur, il attendait en fait qu'est-ce que Dieu allait faire sur cette ville et il croyait que Dieu allait quand même la détruire. Et donc Dieu lui a donné une leçon à travers le ricin qui s'est développé miraculeusement dans une nuit et puis un ver est venu le ronger et le ricin a été détruit et il s'est irrité encore contre le ricin et contre toute cette situation qui était désagréable. Et Dieu lui reprend et lui dit, mais toi, tu t'irrites contre ce ricin qui a poussé en une nuit, qui a disparu, et tu ne veux pas faire grâce à une ville qui mérite d'être sauvée, et tu t'irrites contre une ville où il y a des habitants, et alors que Dieu lui montre qu'il veut lui faire grâce, et il va lui donner une leçon pour lui montrer que le plan de Dieu, c'est le salut du monde et ce n'est pas de rester entre les Juifs. Alors, il y a quelques versets dans Psaume 37, 8. La colère, il nous faut la rejeter. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Et Colossiens 3, 8, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Voilà, on voit que c'est une position spirituelle à prendre, renoncer, rejeter fermement la colère. Un autre verset nous dit, n'attendez pas, Éphésiens 4, 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre, que si vous laissez la colère continuer, vous donnez accès au diable. Et le temps, en fait, va jouer contre nous si nous nous mettons en colère. C'est l'ennemi qui va trouver un accès. Et puis, un antidote à la colère, c'est être rempli de l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, 5, l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Si nous sommes remplis de l'amour de Dieu, bien, ça étouffe la colère. La colère n'aura plus sa place. Donc, prions pour être remplis de son amour. Comme ça, cette colère sera étouffée et l'Esprit va nous transformer. En fait, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons à l'image de Christ qui était doux et humble de cœur. Deux caractéristiques que nous n'avons pas naturellement. Alors, en conclusion, tôt ou tard, on est tous confrontés à la colère, à l'irritation, parce que Dieu n'agit pas toujours comme on veut. Est-ce que nous allons nous entêter comme Jonas, qui a jusqu'au bout s'est irrité, qui jusqu'au bout a maintenu sa position et demandé la mort à Dieu? Il a laissé libre cours à sa colère, et finalement, ça ne lui a pas servi. Il était à côté du plan de Dieu, ses prières n'étaient pas bonnes, sa manière de vivre ne collait pas. Il n'avait même pas l'intention de faire grâce aux autres. Donc, il ne vivait pas l'Évangile, il ne vivait pas la volonté de Dieu. La colère vous détruira de l'intérieur, vous perdrez même des amis. C'est pourquoi on a besoin d'être libéré de la colère avec Dieu qui procure la paix. Nous devons accepter la volonté de Dieu, ce que Jonas n'a pas fait. Il n'a jamais accepté la volonté de Dieu pour Ninive. Mais nous devons, nous, accepter la volonté de Dieu parce que nous savons qu'elle est bonne et parfaite. Et c'est inutile de lutter contre la volonté de Dieu parce que Dieu a un plan, il avait un projet. Et c'est à nous d'entrer dans les projets de Dieu et non pas d'imposer nos projets à Dieu. On va prier quelques instants. Merci encore pour cet exemple, et nous voulons laisser nos cœurs encore ce soir être remplis de ton amour, de ta paix, de ta grâce, afin de ne pas laisser libre cours à la colère, à l'irritation, à la déception, alors même que les choses n'ont pas tourné comme nous l'espérions, alors que nous avions pensé que tu agirais de telle et telle manière, et tout a été autrement. Seigneur, nous voulons apprendre plutôt à comprendre que tu n'agis pas comme les hommes, que tu as ton plan, que tu as ton temps, que tu as ta volonté de faire grâce à un peuple nombreux, que tu as des projets pour nos vies, et que combien même les portes se ferment, Seigneur, rien ne t'empêche d'agir autrement et de susciter des solutions nouvelles que nous ignorons. Seigneur, apprends-nous à être humbles quand nous n'avons pas eu un exaucement à nos prières, quand nous n'avons pas vu ta main agir comme nous voulions que tu agisses. Eh bien, Seigneur, nous ne voulons pas nous irriter, nous ne voulons pas nous rebeller contre toi, mais nous voulons apprendre à dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Nous voulons chercher ta face, nous voulons chercher ton plan, nous voulons comprendre que tu es au contrôle de toutes choses et que tu dirigeras tout pour la seule gloire de ton nom. Amen.